Mesdames, Messieurs, on va prendre comme prétexte un incident violent de l'histoire romaine. Le fait qu'en 410, une troupe de barbares germains a pris et saccagé Rome, on va tourner autour de ça pour parler des grandes invasions. Alors, nous allons faire semblant de tout ignorer et d'essayer d'expliciter pourquoi ce fait invraisemblable est arrivé. Voilà des Germains, les Goths, qui prennent Rome en 410 et la pillent. Si l'on ignorait tout, on supposerait que cette prise de la capitale de l'Empire par des barbares a été la péripétie décisive de ces grandes invasions qui mettront un jour fin de l'Empire romain en Occident. Mais on sait qu'il n'en est rien. Ce drame de 410, la prise de Rome, ne fut pas une grande coupure, mais un épisode dramatique isolé. Ce ne fut pas une invasion venue du dehors, mais la conséquence d'une rébellion à l'intérieur de l'Empire, où les Goths étaient installés depuis 40 ans. Leur roi Alaric, qui a saccagé Rome, n'était pas un envahisseur, il occupait une haute fonction dans l'administration de l'Empire romain. Quant à Rome, qui demeurait la cité symbole de la puissance romaine, elle n'était plus la capitale de l'Empire, les empereurs étaient maintenant installés à Ravenne. Il s'agit donc d'un incident complètement paradoxal. Pour faire plus vite, pour que la suite soit plus claire, il y a deux choses à se mettre dans l'esprit. L'Empire du IVe siècle, à la veille même où il va être démoli en Occident, n'est absolument pas un État en décadence. Il faut s'enlever définitivement une bonne fois du crâne les mots de bas-empire et de décadence de l'Empire romain. L'Empire du IVe siècle est une chose qui tient parfaitement et solidement, reconstruit comme il a été, par Dioclétien et par Constantin. Sa chute en 402 et 406 a été un accident militaire inattendu. Il n'y a pas de décadence de Rome. La deuxième chose, où ça ira plus vite, c'est de voir que le vrai aspect des grandes invasions, ce ne sont pas des mouvements de population, des Völkerwanderungen, c'est le découpage de l'Occident en royaumes par des petits groupes de conquérants autour d'un chef, des petits groupes de quelques dizaines de milliers d'hommes, et pas plus. Découpage par des conquistadors et germains, et non pas mouvement de peuple. Les grandes invasions, comme on dit en français, n'ont pas été la migration des peuples, comme on dit en allemand, après laquelle la Germanie s'étant déversée dans l'Empire d'Occident, se serait retrouvée vide. Ce furent de multiples mouvements de nature différente qui s'étalèrent sur tout un siècle et qui ne mettaient chaque fois en jeu que quelques dizaines de milliers d'hommes. Il s'agissait tantôt de raids momentanés de pillards qui pénétraient profondément dans l'Empire et s'en retournaient en rapportant leur butin, tantôt d'immigrations définitives de familles de paysans armés, hommes, femmes et enfants, qui venaient s'installer dans une région de l'Empire pour y trouver des terres à cultiver et la protection des armées romaines, tantôt enfin d'entreprises d'aventuriers qui finissaient par stailler des royaumes vassaux dans quelques coins de l'Empire d'Occident. Dans les deux derniers cas, les quelques dizaines de milliers de combattants étaient suivis de chariots qui portaient leurs femmes et leurs enfants, mais pas leur bétail. Ils n'avaient pas à manger. Mais enfin, les apparences étaient sauves. Ces envahisseurs étaient censés s'installer dans l'Empire comme alliés de Rome, comme soldats à son service. Les royaumes que les Visigoths ont établis en Aquitaine et les Burgondes en Savoie seront théoriquement vassaux de l'Empire et leurs rois continueront longtemps, spontanément, à assurer les empereurs de leur dévouement de fidèles fonctionnaires. Je n'entreprends pas ici de dissoudre la réalité d'une tragédie historique dans des considérations lénifiantes. Si les mots de grandes invasions sont inexacts à la lettre, les ruines, les violences et les usurpations qui s'étendent de 376 à 476 n'en ont pas moins existé, et les fictions légales les dissimulent bien mal. Finalement, l'Empire d'Occident se retrouvera bel et bien démoli, seul subsistera encore pour un millénaire l'Empire d'Orient avec ses empereurs dans leur palais de Constantinople. Et cependant, même après leur conquête, les rois germains, vandales y compris, continueront à éprouver autant de respect pour l'Empire qu'ils avaient eu de convoitise pour ses richesses et pour ses terres. Pour eux, l'idée impériale était indépassable. Après avoir dilacéré l'Empire en Occident, ils seront fiers d'en faire nominalement partie. Ils auraient été fiers d'être nés romains. Par exemple, les Burgondes se flattaient de descendre des soldats romains qui gardaient les forts, les burgis, les bourgs de la frontière. Et lorsqu'une tribu barbare avait conclu une alliance militaire avec l'Empire, elle défendait l'Empire avec zèle contre les autres barbares qui l'attaquaient. Ajoutons que ces barbares portaient ce qui était alors le signe d'appartenance au monde civilisé. Goths ou Vandales, ils avaient été convertis au christianisme et y attachaient beaucoup de prix. Les Vandales combattront les armées romaines en faisant porter devant eux l'exemplaire de la Bible traduite en langue gothique à leur usage. Le christianisme auquel ils avaient été convertis était malheureusement l'arianisme, qui en ces années 400 était en train de devenir une hérésie après avoir été à peu près la religion de Constantin. Et réciproquement, lorsque les Goths et les Vandales seront devenus les maîtres de l'Aquitaine et de l'Afrique du Nord, ces Ariens convaincus persécuteront les églises, les évêques catholiques de leur royaume. Les grandes invasions se sont doublées ainsi d'un conflit religieux entre envahisseurs et envahis, entre Ariens et catholiques, conflit qui était une grosse affaire aux yeux de certains contemporains. Racontons maintenant ce qui s'est passé et plaçons-nous en l'année 376, où l'Empire romain est intact, extrêmement vigoureux, et où la tragédie commence. À cette date, l'Empire romain est intact et il se trouve qu'il avait, depuis un demi-siècle, au terme d'un traité, de bonnes relations avec les Goths, un royaume puissant, évolué et sédentaire, qui vivait au nord du Danube, vers la mer Noire, en Ukraine, et qui avait pris figure d'état dynastique. Leur village de cultivateurs et d'éleveurs, découvert par les fouilles soviétiques, se retrouve de Bucarest à Sébastopol. Marchands et missionnaires chrétiens passaient le fleuve. Le peuple goth était conscient et fier de son identité ethnique, mais c'était aussi un de ces peuples barbares pour lesquels l'Empire romain, leur puissant voisin, était un modèle et l'idéal de leurs rêves. Or, en cette fatale année 376, de nombreux Goths franchirent la frontière du Danube et pénétrèrent dans l'Empire. On n'était que trop accoutumés aux razzias germaniques depuis deux siècles, mais cette fois il s'agissait de tout autre chose. Ces Goths n'étaient pas un groupe de pillards, mais une foule de fuyards. Et que fuyaient-ils donc? On s'est longtemps représenté leur intrusion comme le résultat final de chocs entre des peuples, à la manière de chocs entre des boules de billard. Les Goths, pensait-on, avaient été bousculés par les Huns, eux-mêmes bousculés par des peuples d'Asie centrale. On suppose plutôt aujourd'hui un assujettissement économique. Les Huns serraient de près les Goths dont ils voulaient faire leurs esclaves ruraux. Ils voulaient les assujettir à cultiver leurs terres et se faire nourrir par eux. Alors, un grand nombre de Goths s'enfuirent et passèrent le Danube pour se recaser dans l'Empire romain et se mettre sous la protection des armes romaines. Depuis longtemps, l'Empire recourait à des éléments barbares pour mettre en culture des terres en friche et surtout pour compléter ses armées. Mais cette fois, par une innovation décisive et fatale, les Goths restèrent groupés sous leur roi, leur Reich, c'est-à-dire leur noble, comme un Anglais et un Allemand aujourd'hui. Leur intrusion était celle d'un corps étranger dans l'Empire, et non pas d'individus. Les Romains ne parvinrent pas à leur barrer la route. Pire encore, deux ans plus tard, après maintes péripéties, les Goths leur infligèrent en 378 une des plus cuisantes défaites de l'histoire romaine, qui fut un signe des temps pour les contemporains. Si bien qu'en 382, Rome dut laisser ses tribus avec leur roi, s'installer en Bulgarie comme allié assermenté, recette qui s'était toujours révélée fiable, car ces peuples n'avaient pas le sentiment d'appartenir à quelque race germanique, mais ils respectaient leurs promesses de fidélité. La parole donnée était, semble-t-il, un lien décisif à cette époque dans les relations internationales. Comme tous les Germains qui pénétrèrent dans l'Empire, ils ne croyaient pas s'y établir en conquérant. Ils ne voulaient y entrer qu'en sujet, en allié. Il reste que depuis cette année 382, l'Empire n'est plus un territoire tout entier soumis à la loi romaine et à l'empereur. Il y avait en lui une enclave étrangère, quoique théoriquement vassale. Il y a pire encore, à mon avis. L'installation de ces nouveaux venus en Bulgarie, en Thrace, se fit probablement non sur des espaces vides ou en friche, mais aux dépens de la population locale de paysans. Certes, depuis Marc Aurèle, il arrivait qu'on installât des barbares sur des terres dépeuplées, vacantes, afin de les remettre en valeur. Et les historiens modernes semblent croire qu'il en était et en serait toujours ainsi. Mais on ne sait pas trop ce que les pouvoirs publics entendaient par terres vacantes. Ils pouvaient toujours prétendre que sur les propriétés cultivées, il restait encore de la place pour des cultivateurs barbares supplémentaires. Or, il ne faudrait pas oublier qu'en 382, l'Ego avait exigé toutes les terres avec le bétail et les céréales. Amiens Marcellin le dit en toutes lettres. Ce fut donc, à mon avis, une de ces occupations de bonnes terres avec expulsion ou réduction en esclavage des anciens possesseurs, comme on en avait connu dans l'Antiquité en d'autres circonstances. Rome avait laissé faire. La même chose s'était déjà produite en Alsace 30 ans auparavant. Du récit de Libanius, il ressort, à mon avis, qu'en 353, l'empereur avait jugé plus important de conserver son trône que de ne pas faire le malheur de ses sujets. L'empereur voulait se procurer des auxiliaires barbares contre un usurpateur. Pour cela, il a installé dans les campagnes d'Alsace, par un traité formel dont parle Libanius, des alamans munis de billets de logement, selon une pratique consacrée. Chose prévisible, ceux-ci abusèrent de l'hospitalité, occupèrent les terres et réduisirent les paysans à l'esclavage. L'empereur y gagnait. Les envahisseurs devenaient des soldats fédérés, ce que n'étaient pas les paysans alsaciens. Comme gênés du sang-gêne impérial, les historiens modernes hésitent à relater le fait ou l'adoucissent, le texte de Libanius. Par ailleurs, individuellement, des travailleurs immigrés gaux se répandaient en Orient grec comme maçons, porteurs d'eau, portefaix ou domestiques. On voyait partout de ces immigrés, un contemporain Synésius en génie. Il faut distinguer soigneusement cette colonisation par des cultivateurs et cette immigration au compte-gouttes de l'épopée qui va suivre et que je vais raconter, celle d'Alaric et de la prise de Rome et des Visigoths. Cette épopée qui ne trouvera son terme qu'un quart de siècle plus tard, à Toulouse au Bordeaux, après être parti de l'Ukraine et après avoir saccagé et pris au passage la ville de Rome. En effet, vers 395, une dizaine d'années après l'installation des Goths en Bulgarie, dans l'Empire d'Orient, se formèrent parmi eux, sous la conduite d'un certain Alaric, des bandes de guerriers auxquelles se joignirent des aventuriers de toute origine. En 395, ces bandes firent irruption vers le sud, jusque sous les murs de Constantinople, passèrent les Thermopyles, pillèrent et ravagèrent la Grèce. Corinthe et Éleusis furent brûlées. Athènes fut sauvée par une apparition d'Athéna sur les remparts et de plus paya une rançon à Alaric qui fut invité à dîner au Prytané. Qui étaient ces envahisseurs? Des bandes d'aventuriers, à mon avis. Ce n'était pas le peuple goth qui se serait remis en marche, et Alaric n'appartenait pas à la dynastie régnante. C'était un grand seigneur qui avait pris la tête de bandes qu'il avait recrutées parmi les goths. La suite de leur aventure va ressembler à des errances de pirates de terre ferme et non à une émigration de pères de famille. On racontera un jour chez les goths qu'Alaric avait persuadé ses hommes de chercher à conquérir des royaumes plutôt que de rester tranquillement soumis à autrui. L'Empire d'Orient puis celui d'Occident ne purent ou ne voulurent mettre fin une bonne fois à cette agression, si bien que pendant 25 ans, on va assister à un spectacle extravagant. Alaric et ses successeurs, avec leurs 30 000 guerriers et leurs familles, vont sillonner presque impunément diverses provinces de l'Empire, en pillant et en vivant sur le dos des indigènes. Parfois, le pouvoir impérial les prenait à sa solde pour les opposer à d'autres germains. En un quart de siècle, cette population d'aventuriers, sans cesse menacée par la famine, passera de la Crimée à l'Aquitaine. Voilà donc des alliés de l'Empire, mais qui sont intérieurs à l'Empire. Une population errante qui est aussi une armée, et un roi qui défend cet Empire quand il n'en s'attache pas à la capitale. Tantôt pirates en quête de terres à cultiver, tantôt corsaires au service de Rome contre d'autres pirates. Le roi, lui, avait d'autres ambitions, comme on va voir. D'autres empires que celui de Rome avaient vu leur territoire parcouru et mangé par des troupes d'aventuriers errants dont on ne savait se débarrasser et qu'on finissait par caser. Cela faillit arriver à l'Empire perse avec les 10 000 de Xénophon, et cela arriva au royaume séleucide avec les 20 000 Celtes qu'Antiochos Sotère finit par caser en Turquie, dans ce qui prit le nom de pays des Gaulois ou Galatie. Mais le cas des Visigoths ne ressemble à aucun autre. Ce ne fut ni l'intrusion d'un peuple pauvre vers le pays des riches. Du reste, il se pourrait que les terroirs d'Europe du Nord soient plus riches et leurs habitants mieux nourris que les paysanneries méditerranéennes. Ce ne fut pas non plus une razzia, un raid de pillage, comme si souvent. Ce fut du parasitisme de masse qui consistait pour un groupe d'aventuriers à aller vivre confortablement aux dépens de l'Empire. Non pas en expulsant la population locale, ni par une prise de position brutale à la manière des Vandales, mais si l'on ose dire, par une sorte d'entrée en masse dans la légion étrangère. Ils forcèrent l'Empire à les prendre comme alliés à sa solde, grâce à une institution romaine, celle de l'hospitalité, au terme de laquelle un militaire vivait aux dépens du propriétaire chez lequel il avait un billet de logement. Au militaire qui était son hôte, ce propriétaire devait le tiers de ses biens ou de ses revenus, ou le double. C'était ce régime de l'hospitalité que réclamaient les guerriers d'Alaric en 395. Beaucoup de ces aventuriers cherchant fortune étaient chrétiens, tous avaient conscience de leur puissance, ils connaissaient l'histoire et un peu la langue du pays où ils pénétraient, et ils savaient sur quel levier institutionnel appuyer. Il ne faut pas les prendre du tout pour des sauvages. Mais il y a autre chose encore. Leur roi, pour sa part, va tenter de saisir la réalité du pouvoir impérial lui-même. Comme tant d'autres nobles germains, il entendait s'établir dans l'Empire à titre de généralissime des armées impériales. Là est sans doute la clé du personnage d'Alaric. Un hasard lui mit le pied à l'étrier et fut le début de sa fortune. En ces années 395, la péninsule balkanique, la Yougoslavie, l'Illyricum, était discutée entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, entre l'empereur de l'Occident latin et son frère l'empereur de l'Orient grec, de plus en plus ennemis l'un de l'autre. Ce conflit sera la cause première de la tragédie et de la chute de l'Empire d'Occident. Au lieu de combattre Alaric, chaque moitié d'empire recherchera l'alliance du chef germain contre l'autre moitié. En 398, l'empereur d'Orient, las de voir les Goths ravager ses propres territoires, les prit à son service et nomma Alaric chef militaire du Balkan pour faire face aux prétentions de son frère d'Occident. Voilà donc Alaric mis avec ses hommes à la tête d'une des quatre zones militaires de l'Empire, de ses greniers et de ses arsenaux. Il est devenu un des 12 ou 15 premiers personnages de l'Empire. Ce n'est plus un envahisseur étranger, il peut poser aux hauts dignitaires en révolte, rôle courant en ce temps-là, à la tête de troupes mutinées qui réclament leur solde. Et un beau jour, le 18 novembre 401, Alaric franchit la frontière et attaqua l'Italie. L'opinion romaine affolée s'imagina que ces barbares étaient en quête de terres à cultiver, et qu'au lieu d'en chercher en Alsace ou en Bulgarie, ils prétendaient les trouver en Italie même. À en croire les poètes du temps, Alaric pensait que son destin, prédit par des prodiges dont il donne le détail, était de devenir le maître du sol italien lui-même. Ces poètes se trompaient. L'ambition d'Alaric était beaucoup plus grande. Il faut savoir en effet que depuis 3 générations, il était tout à fait courant que de nobles germains vinssent faire carrière comme généraux dans l'armée romaine, romanisés, souvent christianisés, parfois cultivés. Ils faisaient preuve d'une parfaite loyauté envers leur nouvelle patrie qu'ils défendaient contre les autres germains. C'étaient de vrais patriotes, comme le deviennent souvent les immigrés bien acceptés dans le pays de leurs rêves. Devenus généralissimes des armées impériales, ces Germains gouvernaient derrière le dos de l'empereur d'Occident, lui mariaient leurs filles. En revanche, ils n'allaient pas plus haut, car leur origine germanique leur interdisait de prétendre au trône. Ils ne pratiquaient donc pas le sport national romain, qui était de tenter d'usurper le trône impérial. C'est pourquoi ces Germains étaient bien accueillis dans l'état-major romain et même en prenaient la tête. L'empereur avait plus confiance en un généralissime germain qu'en un romain, qui pouvait toujours devenir son rival et lui arracher son trône. Dans maintes vieilles monarchies, le despote avait soin de ne confier les postes de confiance qu'à un étranger qui n'avait pas de liaison avec les coteries locales. Deuxième raison, la guerre exclut les étrangers des fonctions publiques avant le XIXe siècle. Auparavant, un monarque choisissait librement ses serviteurs, malgré la xénophobie de ses peuples. Si bien que les généralissimes germains finirent par devenir les vrais maîtres du pouvoir. À partir de 457, l'Italie sera pratiquement un royaume germanique sans le nom. Les chefs germains fabriqueront bientôt eux-mêmes leur empereur fantoche, et puis un jour, ils se lasseront d'en fabriquer un, et mettront fin par là à cette fiction qui était devenue l'Empire d'Occident, en feignant d'avoir rétabli l'unité des deux moitiés de l'Empire au profit de l'empereur d'Orient. Un compromis aurait été possible, non entre Rome et la barbarie, mais entre Rome et les barbares à son service. Un préjugé insurmontable écartait du trône le barbare même fidèle, même naturalisé et citoyen romain. Et les généraux barbares sentaient eux-mêmes si bien que l'obstacle était infranchissable que pas un d'eux n'osa sérieusement aspirer à l'Empire. Mais leurs enfants, mariés à des romaines de naissance impériale, auraient pu, eux, faire souche d'empereur. Cet accord aurait peut-être été le salut de l'Empire. Mais il sera repoussé avec fureur par l'aristocratie romaine. C'était donc souvent des généralissimes germains qui détenaient la réalité du pouvoir en Occident et le détiendront de plus en plus. Le grand adversaire d'Alaric dans son entreprise de saisir le trône sera un vandale romanisé, Stilicon, grand patriote, talentueux généralissime, deux fois consul, beau-père de l'empereur, tuteur de ses enfants et vrai maître de l'Occident pendant 13 ans, derrière le trône d'un empereur adolescent. En confiant à un vandale le commandement de ses armées et la tutelle du prince héritier, l'empereur romain savait que cet étranger ne tenterait pas de dépouiller du trône son pupille. On devine alors ce que cherchait Alaric. Il voulait devenir un autre Stilicon. Il prétendra d'ailleurs venger le meurtre de ce dernier, victime d'une intrigue de cour. Héritier d'une dynastie gothique, Alaric est un grand seigneur qui a de grandes ambitions. Il veut le poste de général en chef qu'avait occupé Stilicon, c'est-à-dire la réalité du pouvoir. Et pour cela, en l'année 408, il prend Rome en otage. Son armée vient assiéger la ville éternelle où la famine s'installe. Il a dû calculer que rien ne résisterait à un chantage visant cette ville éternelle qui n'avait jamais été violée depuis le raid celte de Brennus 8 siècles auparavant. Calcul qui devait se révéler faux, mais qui n'était pas absurde. Alaric a déjà créé le fantoche derrière lequel il espère gouverner. Et c'est pourquoi j'ai pu supposer qu'il voulait devenir le nouveau Stilicon. Il a fabriqué son empereur fantoche en la personne d'un certain Attalus, grand personnage, maire de Rome, préfet de la ville. Et pourtant, la fiction impériale demeurait si puissante que cet Attalus, se prétendant d'un envahisseur barbare, promit dans son discours d'intronisation de continuer l'œuvre éternelle de Rome, celle de la domination universelle. Une politique était possible, agréer ce barbare puissant et talentueux et faire de lui et des siens de fidèles défenseurs de l'Empire. Déjà la défense du Rhin avait été confiée à des alliés francs qui, au service de Rome, se firent bel et bien tailler en pièces lors de la grande invasion germanique de la Gaule en 406. L'Empire manquerait de troupes. Stilicon avait refoulé les Goths à 3 reprises. Leurs femmes, leurs enfants et leurs chariots furent capturés dans une de ces batailles, mais il n'était jamais arrivé à en finir avec eux. Une des raisons en est sans doute que l'empereur, qui faisait combattre les barbares par ses alliés barbares, n'osait pas risquer sa précieuse armée personnelle, ce qu'on appelle l'armée palatine, dans une lutte au finish, contre les envahisseurs qui ne menaçaient pas directement son trône. L'autre raison de ne pas écraser Alaric était que Stilicon manquait de troupes pour délivrer la Gaule de l'invasion germanique. Il ne voyait pas d'autre solution que de prendre Alaric au service de Rome. Si bien que Stilicon fut suspecté de trahison par le parti anti-germain qu'il emportait à la cour, et il fut massacré, selon la coutume de ces 2 siècles qui sont de loin les deux plus brutaux de l'histoire impériale. Nous ne nous en étonnons pas, Dieu et César était fort distinct en ce siècle qu'on qualifie abusivement de chrétien, ou plutôt c'est les païens qui le disaient par sarcasme. L'assassinat de Stilicon rouvrit aux armes d'Alaric la route de Rome, mais l'empereur d'Occident, Honorius, s'était juré de ne pas céder au chantage d'Alaric. Sa vision et celle de ses conseillers n'étaient pas la nôtre. Pour eux, la grande affaire n'était pas le sort des populations, ni même la perte de morceaux d'empire. Elle était de préserver le trône en abattant tout usurpateur. La politique de ces deux siècles est remplie par un combat des chefs qui se soucie peu des ravages infligés par les barbares à leur empire. Pour Honorius, le pire ennemi n'était pas Alaric, mais son fantoche Attalus. De fait, Alaric n'adressait aucune menace à Honorius. C'était sa marionnette Attalus qui prenait de grands airs et qui promettait à Honorius de le détrôner, de lui faire couper les doigts et de le bannir dans une île. Honorius, de son côté, en sécurité dans Ravenne, protégé par les marais qui l'entouraient alors et par sa flotte, préféra sacrifier Rome plutôt que de négocier avec Alaric et l'usurpateur. La puissance armée attachée à sa personne ne bougea pas de ses garnisons italiennes, puisqu'on entend jamais, Concordia et Milan, puisqu'on n'entend jamais parler d'elle. Après maintes péripéties, les négociations entre Ravenne et le roi Go finirent par être rompues. Alaric avait fini par supplier Honorius d'accepter des conditions modérées, que l'empereur ne permette pas, disait Alaric, qu'une ville qui a commandé Milan à l'univers et où il y a de si beaux édifices soit ruinée et brûlée. Qu'il prenne Alaric et ses hommes comme défenseurs de l'empire en leur accordant des terres à cultiver. Mais on peut supposer que l'existence d'un usurpateur, fantoche Attalus, rendait l'accord impossible. Alors Alaric passa du chantage à la vendetta. Dans la nuit du 24 août 410, les Goths, au son de leurs trompettes de cornes, entrèrent dans Rome par la porte Salaria sur l'actuelle Piazza Fiume. Selon les idées de l'époque, mettre à sac une cité était autre chose que du brigandage. C'était infliger un châtiment à cette ville et à travers celle-ci à son souverain en personne. La capitale impériale était une entité coupable, même si ses habitants de chair et d'os n'avaient rien fait. Rome fut mise à sac pendant 3 jours. Selon la coutume, Alaric avait spécifié d'avance cette durée de 3 jours, c'était littéralement l'énoncé de la sentence de punition qu'il rendait contre la ville, la condamnation qu'il lui infligeait. À titre de comparaison, les Vandales en 455 infligeront à Rome un sac de 12 jours. Par ailleurs, en 410, le chrétien Alaric décida aussi que la ville ne serait pas incendiée. Contrairement à la coutume des païens, écrit un antique historien des Goths, Jordanes. Cette coutume ne laisse pas d'être bizarre, car à quoi bon incendier après avoir tout emporté? En 258, les Goths avaient ainsi incendié Nicomédie et Nicée après les avoir pillés. Ils les avaient incendiés inutilement, par pur caprice, écrit Gibbon. Ce caprice, dirons-nous, consistait à parachever la victoire en narguant le vaincu. Bref, ces incendies étaient comme le grumus merdé, que selon Sigmund Freud, le voleur laisse dans l'appartement qu'il vient de cambrioler afin de narguer sa victime quand il ne pisse pas dans son piano. En cette année 410, Rome. Donc, Rome ne fut pas incendiée et un asile, fictif par sa faible contenance, fut réservé à la population. Saint-Paul et la basilique de Saint-Pierre au Vatican, c'est-à-dire quelques milliers de mètres carrés, servirait d'asile à un bon demi-million d'habitants, si ce n'est pas le double. Sans qu'il y eût de massacres systématiques, destructions, meurtres et viols furent innombrables. Des moniales furent violées ou emmenées en esclavage. La prière de chacun était « Seigneur, ne me laissez pas torturer pour mon or et mon argent ». 40 000 hommes armés étaient les maîtres d'une gigantesque ville désarmée, siège d'une aristocratie richissime. La soldatesse qu'entrait dans une maison réclamait l'or et l'orfèvrerie au propriétaire, le rouer de coups ou violer sa fille pour qu'il dise où sont ses trésors. Plusieurs palais, des temples et même certains quartiers furent la proie des flammes. Sur l'Aventin, dans des ruines calcinées, les fouilles ont retrouvé des pièces d'orfèvrerie endommagées par le feu. Sur le forum, la basilique Emilia brûla aussi et l'on voit encore sur son pavement la trace des monnaies fondues par l'incendie de la charpente. Au bout de 3 jours de punition, les Goths évacuèrent la ville, en amenant comme esclaves une foule de captifs dont ils espéraient tirer une rançon. La demi-sœur de l'empereur, Galla Placidia, avait été prise en otage. Alaric s'apprêtait à l'épouser pour exercer la réalité du pouvoir derrière son beau-frère, mais il mourut la veille des noces. Il avait saccagé la ville éternelle, il n'avait rien obtenu, Honorius n'ayant pas cédé à son chantage. Le successeur d'Alaric épousa à Narbonne, Galla Placidia, selon le rite romain, Lui aussi voulait être généralissime de toutes les armées. Il tenta même de relancer le fantoche Attalus. Car les rois Goths voyaient grand. Le successeur d'Alaric, de son propre aveu, songea un moment à se faire empereur, à effacer le nom romain et à fonder, disait-il, un empire gothique. Il n'en fit rien, car il avait un sens aigu des nécessités d'une organisation stable. Il sentait que si le pouvoir nominal n'était plus romain mais gothique, la bureaucratie romaine perdrait toute autorité et l'empire goth perdrait alors sa charpente. Or, c'est cette bureaucratie, en Italie et en Gaule, qui a transmis les institutions romaines aux rois ostrogoths, visigoths ou mérovingiens, comme selon Tocqueville feront le bureau à travers la Révolution française. Renonçant donc à toute ambition impériale, le roi des Goths ne songea plus qu'à trouver un point de chute où il fût son propre maître. À défaut d'exercer en coulisses le pouvoir impérial, il va se tailler un royaume à lui, un royaume vassal, dans le tissu de l'Empire romain. Mais les Goths eurent d'abord de longues années d'errance pillarde et affamée. Ils allèrent tondre l'Italie du Sud, puis ils errèrent à travers l'Espagne, en pillant les richesses tant publiques que privées, dit Jornandès, précision qui évoque moins des pillages sauvages qu'une saisie informée et méthodique des ressources de la nonne militaire. Leur mode de vie n'était pas celui de nomades suivis de leurs troupeaux, je l'ai dit, c'était des cultivateurs sans terre, qui s'emparaient des ressources de la province où ils passaient. Ce fut donc un temps de famine et de misère, dit un contemporain. L'année 418 trouva les Goths eux-mêmes en train de mourir de faim. Il y avait une disette régionale, j'imagine, et la population de la région mourait aussi. Alors les Goths se résignèrent à rendre à l'empereur leur otage, à savoir Galla Placidia. Ils l'échangèrent contre l'équivalent de 70 000 de nos sacs de blé, m'apprend quelqu'un qui s'y connaît. Je suppose qu'il a de quoi faire survivre pendant quelques mois, quelques dizaines de milliers de personnes, mais Tchernia le sait mieux que moi. Ce blé, livré par Rome par l'Afrique au titre de l'impôt, fut apporté, j'imagine, par une douzaine de gros navires ou moins encore, mais c'est Tchernia qui vous le dira. Puis cette énorme livraison a dû exiger, pour parvenir à son terme, une noria de 7000 charretées environ. Le chargement, cette noria était l'équivalent d'un convoi qui aurait été long de 60 km peut-être. Telle est la différence d'échelle entre le transport maritime et les quantités gigantesques qu'il transporte, et le transport terrestre qui va au compte-gouttes. Tchernia vous le dira aussi. On le voit, l'administration qui organisa cela, le préfet du prétoire des Gaules et le vicaire d'Afrique, fonctionnait toujours malgré les invasions. Puis l'Empire cantonna en Aquitaine les Gaules et leurs rois, devenus des alliés à sa solde. Fallait bien finir par les caser quelque part. Les voilà devenus les maîtres de la riche vallée de la Garonne, avec Toulouse pour capitale. On pense généralement qu'en guise de solde, les gros propriétaires aquitains, qui avaient reçu un dégât au titre de l'hospitalité militaire, eurent à lui abandonner les deux tiers de ses rentes ou même des propriétés, mais à vrai dire, on n'en sait pas grand-chose. Quant aux petits paysans, on affirme qu'ils se sentaient délivrés de la pesante fiscalité impériale par la domination barbare. Faut-il le croire, les Goths n'avaient pas, certes, d'appareil administratif et militaire à soutenir et n'avaient pas à lever de gros impôts par conséquent. Seulement, ils restaient de grands pillards. Les voilà devenus laboureurs, rentiers du sol ou pensionnés sous leur roi, censément vassal de Rome. Ils s'étaient taillés un royaume à eux, de Bordeaux à Toulouse, mais ils restaient effectivement des délégués de l'empereur, des fonctionnaires de cet empire qu'ils respectaient profondément. Pendant un siècle et plus, les monnaies d'or des rois barbares porteront l'effigie de l'empereur régnant et non celle du roi barbare. Aucun empereur ne se serait évidemment avisé de donner des ordres à un roi wisigoth, mais ce roi ne s'en considérait pas moins comme vassal de l'empereur et donc membre de l'empire. C'était moins une question de pouvoir que de conception du monde. On ne concevait pas d'autre forme civilisée que la forme impériale. Et cela depuis longtemps, 4 siècles auparavant. En 70, le chef de la rébellion gauloise contre la domination romaine voulait fonder un empire des Gaules. Alors il prit le titre de César. Comment vivait-on en ce 5e siècle dans les parties de la Gaule encore indépendantes ou pas? Bornons-nous à quelques anecdotes relatives à la richissime aristocratie. Dans une de ses lettres, Sidoine Apollinaire se demande anxieusement si son éditeur, car il a un éditeur, aura le bon esprit d'ajouter à son volume de vers une épitaphe qu'il vient justement de composer. Il est pitavant vert. Dans le récit qu'il nous a laissé de sa vie, le chrétien Paulin de Pella se souvient de ses péchés mignons de jeunesse, de ses amours ancillaires dans son harem d'esclave. « Pour ne pas ajouter des délits plus graves à mes fautes, écrit-il, voici la règle que je m'étais donnée pour réprimer mes tentations. Ne jamais désirer les femmes qui ne veulent pas ou qui appartiennent à autrui. Se souvenir de leur laisser leur honneur, je pense qu'il s'agit de contraception par le péché donnant. Et enfin, éviter aussi de céder aux femmes de naissance libre qui s'offriraient librement et me contenter d'user des tentations ancillaires dans ma domesticité. » Rappelons enfin la brutalité de ces riches lettrés raffinés. Dans une lettre célèbre, Sidoine raconte qu'avec la chaude approbation de son évêque, il a laissé pour mort des paysans qu'il avait surpris en train de labourer la sépulture abandonnée de ses aïeux. Quant à la masse de la population aquitaine, riche ou pauvre, elle était au grand minimum 20 ou 30 fois plus nombreuse que les Visigoths. On est toujours étonné à cette époque du petit nombre des envahisseurs, ce qui explique assez leur difficulté à se ravitailler en chemin. Et puisque les rois Visigoths étaient censés être des fonctionnaires impériaux, ils n'assujettirent pas cette population locale. Romains et Germains avaient les mêmes droits. La population restait romaine quant à son état civil et quant au droit civil, qui tiendra longtemps compte des nouvelles lois que publiaient les empereurs subsistants, ceux de Constantinople. Du reste, les historiens actuels ont cessé de croire à la personnalité des lois qu'on nous a enseignées en classe de cinquième. Les rois goths guerroiront au service de Rome contre des usurpateurs ou contre d'autres envahisseurs. Ils intrigueront avec des usurpateurs en cette Gaule confuse où tout le monde intriguait avec tout le monde et où Romains et barbares ne s'opposaient pas systématiquement. En Auvergne et encore romaine, un sujet de l'Empire, Sidoine Apollinaire, prononce le panégyrique de son voisin, le roi Théodoric II, petit-fils d'Alaric, et lui fait dire qu'il regrette ce sac de Rome qui a été le seul péché de son aïeul. Un de ces rois, petit-fils d'Alaric, aura été formé enfant à la lecture de Virgile et sera plus romanophile que d'autres. Toutefois, une barrière subsista toujours entre eux et leurs sujets romains, la religion. Les Visigoths étaient restés des Ariens, des hérétiques aux yeux des évêques de leur royaume. Si bien qu'en 507, leur royaume toulousain sera vaincu et annexé par un vrai catholique, le franc Clovis, païen fraîchement converti à Reims, dont les monnaies d'or portaient la titulature de l'empereur d'Orient, et qui, après ses victoires, recevra de l'empereur de Constantinople les insignes de consul d'honneur. 20 ans auparavant, le même Clovis, encore barbare, encore païen, avait mis fin à la dernière parcelle de l'Empire romain qui subsista encore en Occident, à savoir la Gaule intérieure entre Loire et Meuse. Tout était bien fini depuis 487. Désormais, chacun avait compris que la seule politique d'avenir était de s'entendre avec les nouveaux maîtres. En Italie, le mérite des Goths est de veiller au maintien de la civilisation, affirme un contemporain. Un jour prochain, aristocrates germains et aristocrates romains estimeront que leurs intérêts sont les mêmes. Les deux noblesses se fonderont par intermariage et les Romains arboreront volontiers des noms germaniques. Ce sera, disent maintenant les médiévistes, l'origine de la future noblesse féodale. Cela dit, ce que les siècles à venir devaient retenir est que les Visigoths firent comme tous les barbares qui envahirent les provinces septentrionales de l'Empire. Ils conservèrent les cadres de l'État romain et ils adoptèrent le latin, langue des évangiles chrétiens. Ils adoptèrent aussi le principe chrétien de rendre à César ce qui est à César et de ne pas confondre Église et État. C'est la grande différence avec ce qui s'est passé au sud de la Méditerranée, où les poignées de conquérants arabes qui soumirent les provinces méridionales de l'Empire effacèrent les institutions romaines et la langue latine et identifièrent loi divine et loi humaine. Revenons en arrière. Comment la catastrophe avait-elle été militairement possible? Elle avait été due au manque de troupes en cet empire dont les frontières étaient trop longues pour sa surface terrestre à cause de l'immense trou qu'était la Méditerranée. On ne pouvait défendre un secteur qu'en dégarnissant un autre. Au IIIe siècle, la preuve avait déjà été faite qu'il était difficile de défendre à la fois l'Italie et mettons la Gaule. On peut déplorer, que les, comme le faisait le patriote Camille Julien, que les civils gaulois ou italiens n'aient pas formé leur bataillon et pris les armes pour se défendre, mais notre ami Claude Le Pellet a répliqué judicieusement que l'autorité impériale n'aurait jamais accepté l'organisation d'une autodéfense qui aurait permis des sécessions. Ne parlons pas non plus de décadence. Rien ne prouve que l'armée ait démérité et que les contingents barbares aient trahi. Au contraire, les fortes personnalités ne faisaient pas non plus défaut. Si l'on cherchait de la couleur locale, on la trouverait non pas dans un alanguissement décadent, mais au contraire dans l'espèce d'hystérie dont semblent affectés dans leurs actes et leurs paroles les personnages qui s'agitent sur le théâtre d'Amiens Marcellin et de Libanius. Ce fut le sommet qui fut défaillant. Avec les successeurs de Théodose, l'ère des empereurs soldats est close. Honorius ne s'était pas mis à la tête de ses armées comme auraient fait ses prédécesseurs. Il était resté à l'abri dans son palais, dont l'armée principale avait l'ordre de ne pas s'éloigner. Au cours des deux siècles à venir, jusqu'au règne d'Héraclius à Byzance, on ne verra plus d'empereur à la tête de ses troupes. En 417, l'historien chrétien Orose, qui idéalise l'empire chrétien contre les païens, admirera la politique d'Honorius. Selon lui, le prince chrétien idéal fait une guerre juste contre les usurpateurs romains, dont les révoltes souillent l'idée de l'empire de la paix chrétienne. En revanche, il a des relations pacifiques avec le monde extérieur barbare. Plutôt que de lui faire d'injustes guerres de conquête, il lui paie tribut. Il est difficile de croire que cet humanitarisme soit dû à quelque influence démoralisante du christianisme, faisant tendre l'autre joue quand l'une a été giflée, et que la charité évangélique ait ôté tout ressort à l'Empire face aux barbares. Qu'importer aux armées, à leurs chefs et aux Césars ces chimères de pieux intellectuels aux sympathies charitables. En revanche, je crois que cet humanitarisme a été un faux semblant, une parade d'amour-propre humilié. Reste une énigme. Comment une troupe de Goths a-t-elle pu sillonner pendant un quart de siècle tout l'Empire, de même que les 10 000 ou les Galates avaient sillonné jadis les empires perses ou grecs? N'étant pas de stratège, voici ce que j'ai supposé. On avait pu sillonner ainsi parce que cette armée n'était ni trop réduite, auquel cas une simple opération de police en serait venue à bout, ni trop nombreuse, car elle aurait alors perdu son atout, la mobilité. Lorsque deux États s'affrontent, c'est un duel, chaque combattant cherchant à en finir avec l'autre. Mais entre Rome et Alaric, ce n'était pas un duel, c'était une poursuite, une chasse aux lièvres, où l'adversaire, loin de chercher l'affrontement, se dérobe en obligeant chaque fois les chasseurs qui tentent de l'intercepter à réorganiser leur concentration, leur dislocation et surtout leur grenier. Car rien d'impossible si l'intendance ne suit pas et ne suit pas facilement. Pour voir ce que c'est que le problème du ravitaillement des armées à l'époque, il suffit des descendre Napoléon. Victoire d'Austerlitz, 2 décembre 1806, comme chacun sait. Conséquence, la moitié du village d'Austerlitz est morte de faim après la victoire. Les soldats avaient raflé toute la nourriture pour ne pas mourir eux-mêmes de faim. Voilà comment c'était. Pour proposer un bilan de tout cela, la disparition de l'Empire romain en Occident a été un accident militaire. 402 et 406, l'invasion sur le Rhin et l'invasion en Orient et en Italie, ça n'a pas été une chute à la fin d'une décadence, ça n'a pas de grandes causes instructives, ça ne donne pas de grandes leçons. On pourrait énumérer des causes innombrables, le manque d'argent pour les troupes, la rivalité des deux moitiés de l'Empire, l'organisation de l'armée, la xénophobie anti-germanique, enfin tout, et on pourrait énumérer tant de raisons que cette dissolution d'une grande construction est un accident, la chute d'un jeu de cartes dont on a construit un édifice, et ce n'est pas un grand problème de l'histoire universelle. C'est un problème de détail, accumulé. Retournons au lendemain du drame d'août 410, la prise de Rome. La réaction de l'Empire grec d'Orient avait été l'indifférence. Les Grecs ne s'étaient jamais sentis romains. Débarrassés des Romains et devenus leur propre maître à Constantinople, devenus les vrais Romains, les Romaïoles, ils se souciaient peu des malheurs de l'Occident. Quant à la cour de Ravenne, le sac de Rome avait été pour elle un mauvais moment à passer. Mais le problème Goth venait d'être réglé en installant les Goths à Toulouse. Huit ans après le sacre de Rome en 418, la paix romaine à l'ouest semblait rétablie. Tel était le patriotisme romain du 5e siècle, une espérance ou une puissance d'illusion qui ne cessera jamais. En 474 encore, deux ans avant ce qui est pour nous la disparition de l'Empire d'Occident, Sidoine Apollinaire croit toujours en Rome et il espère que ses fils seront consuls un jour, alors que c'est le roi Germain Odoacre qui est le seul maître de l'Italie. Ses fils auraient pu être consuls d'ailleurs, puisque le consulat durera à Constantinople jusque sous Justinien et qu'on nommait un empereur pour l'Ouest. La fiction demeurait. Donc en 410, au lendemain de sa mise à sac par Alaric, Rome avait encore à survivre pendant deux générations. Elle pouvait reprendre espoir et se relever de ses ruines, sinon de sa dépopulation. Il semble que plus de la moitié de ses habitants avaient été tués, emmenés en esclavage ou bien avaient fui. Et pourtant, les spectacles donnés par les magistrats reprirent. Outre les chasses dans l'arène, il y eut, une fois encore, on les ressuscita, des combats de gladiateurs, en 418. On sait que le rétablissement des spectacles à cette époque signifiait le retour d'une cité à la vie et à la civilisation. En 417, l'empereur Honorius y célébra une entrée triomphale, une sorte de triomphe christianisé, pour fêter sa victoire non pas sur les Germains, mais pour celui qui était à ses yeux son vrai ennemi, l'usurpateur fantoche Attalus. Les palais incendiés ne furent pas tous reconstruits, le Célius, où habitait la haute aristocratie païenne et chrétienne, connut la paix qu'il connaît encore de nos jours. En revanche, vers 430, furent achevées Sainte Sabine et la noble et douce Sainte Marie Majeure, la plus belle des églises de Rome aux yeux de beaucoup. Symbole politique violet et déchu, Rome, sous son évêque, allait achever de devenir la capitale de la chrétienté, même aux yeux de l'Empire d'Orient et de son clergé, bien que les théologiens d'Occident ne comprennent rien à la métaphysique, ce qui amusait beaucoup les Grecs. Le sac de Rome semblait donc n'avoir été qu'un drame humain et un épisode momentané, non une catastrophe aux conséquences durables. Il devait être suivi pour l'Italie de 40 ans de paix, jusqu'à l'invasion manquée d'Attila. De même, sa portée morale fut considérable, mais momentanée. Il déclencha une poussée de millénarisme et une querelle entre païens et chrétiens. Lorsque la nouvelle du sac de Rome se répandit dans l'Empire, le choc fut profond. La lumière la plus éclatante de la terre s'est éteinte, la terre entière a péri avec cette ville, s'écria Saint Jérôme. De nobles dames ruinées qui avaient fui l'Italie jusqu'en Afrique du Nord, à Hippone, ou en Syrie auprès de Saint Jérôme, rapportaient de vive voix des détails atroces. Avec la chute de cette ville symbole sous les coups des barbares, la formation politique qui concluait, croyait-on, l'histoire universelle se révélait mortelle. Revinrent alors à la pensée certains livrets populaires, les apocalypses juives et chrétiennes. Depuis trois siècles, des extrémistes y prophétisaient la destruction de Rome. Un jour, écrivait-il par exemple, des épées volantes traverseront les airs pour aller massacrer les habitants de la grande prostituée. La fin de cette nouvelle Babylone sera le début de la fin du monde. Et l'Apocalypse de Saint Jean elle-même menace cette Babylone du pire châtiment. Car la fin du monde était sincèrement attendue et redoutée, et le sac de Rome en fut peut-être le signe avant-coureur. Saint Jérôme se posait la question et un chrétien naïf demanda au docte Saint Augustin s'il savait la date de la fin du monde. Puis le monde continua et on cessa d'y penser, la suite ayant montré qu'Alaric n'avait été qu'un maître chanteur épisodique et non l'antéchrist, le fléau de Dieu. L'autre grande affaire avait été que l'opinion païenne avait fait retomber la responsabilité du drame sur les chrétiens. Les païens le pensaient depuis longtemps. Tous les malheurs publics venaient de l'abandon des anciens cultes. Après le sac de la ville, la preuve était faite. Rome était tombée parce qu'elle avait cessé d'honorer ses dieux. Voilà ce que c'est que les temps chrétiens, disaient sarcastiquement les païens. Les chrétiens s'étaient révélés, les dieux chrétiens, le dieu des chrétiens s'était révélé incapable de défendre Rome. Mais en réalité, la pensée des païens était plus ample, plus que religieuse, et elle touchait à tout. C'est une maxime de précaution générale chez les conservateurs, quieta non movere, ne pas toucher à ce qui marche bien, c'est-à-dire ne pas toucher au statu quo. Autrefois, rien de tel que le sac de Rome n'arrivait, cela arrive maintenant parce que les chrétiens ont modifié l'autrefois. Ils ont aboli les cultes les plus vénérables, mais aussi les combats de gladiateurs. Saint-Augustin répliqua au contraire, le désastre était dû au fait qu'on avait toléré le paganisme, l'immoralité et l'hérésie dans le nouvel empire chrétien. Et c'est là que, pour répondre aux rêves des païens, il entreprit la rédaction d'un de ses ouvrages capitaux, La Cité de Dieu, qu'il devait rédiger pendant 20 ans. Les premières pages en sont d'une lecture pénible. Augustin, qui n'est pas un tendre, c'est un des plus grands inventeurs d'idées que l'histoire universelle ait connu, mais ce n'est pas un tendre. Augustin essaie d'y minimiser les choses pour innocenter sa religion, et aussi parce que cette tragédie entre, hélas, dans l'ordre des choses humaines et ne touche pas à l'essentiel, qui est le salut éternel. Oui, des moniales ont été violées, mais qu'importe d'être violées, la chasteté est dans l'âme et non dans le corps. Et puis certaines femmes étaient trop orgueilleuses de leur virginité. Le viol les aura ramenées à plus d'humilité. Qu'importe la vie et qu'importe les biens de ce monde, il existe quelque chose de plus important. L'important chez saint Augustin, bon, ce ne sont pas évidemment ces balivernes partisanes, mais c'est que, et c'est pour ça que je ne veux pas parler longuement de lui, d'abord parce qu'il faut en parler longtemps ou pas du tout, et ensuite parce qu'il ne représente pas du tout l'opinion de son temps. Il admet que l'Empire, qu'il est nécessaire qu'il y ait une cité terrestre, qui n'est pas l'Église, mais qui est la formation politique, pour que les hommes y vivent en paix grâce aux gendarmes. Cela dit, ces constructions sont fragiles, elles passent, toutes s'écrouleront, Rome s'écroulera aussi. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est la cité céleste, qui n'est pas l'Église, mais les futurs élus. Il ne faut pas confondre. Parce que dans la cité terrestre, il y aura des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui seront sauvés, tandis qu'il y a dans l'Église des gens qui sont dans l'Église, mais qui seront en enfer. Des papes iront en enfer, Dante vous le dira. C'est plus tard qu'on a tiré de la cité de Dieu la fausse, ce qu'on appelle l'augustinisme politique, c'est-à-dire le prétendu conflit entre l'Église et l'État. Ce n'est pas chez saint Augustin. J'ajoute quand même tout de même que cette idée de saint Augustin, les deux cités, n'est pas de lui. Je me demande pourquoi on ne signale pas plus souvent qu'elle est en toutes lettres, dès les années 100, dans un petit texte populaire très naïf, le pasteur d'Hermas, écrit par Hermas. C'est un petit roman édifiant, très ennuyeux. Ah oui, ça, je vous assure, c'est du grec qui se lit couramment, c'est son seul mérite. Bref, saint Augustin place les valeurs sur un autre sol que celui des cités terrestres, ce qui fait qu'ils aient enlevé la possibilité de fonder des choix politiques, de choisir entre l'Empire et les barbares. Il préfère l'Empire et les barbares, dont on parle, il ne les connaît pas. Il est là à Hippone. Il élude les occasions de prendre position, si bien qu'il exaspérait ses contemporains. Il dit dans un de ses sermons, « Oh, je sais bien ce qu'on dit de moi, on se dit pourvu qu'il n'avait pas reparlé du sac de Rome. » Le drame de 410, écrit-il, n'est pas apocalyptique. Rome a survécu et se relèvera sans doute une fois de plus. Toutefois, aucune institution romaine n'est promise à l'éternité. Aucune non plus n'est providentielle. Pas même l'Empire chrétien, comme le croyait son naïf disciple Rose. Il ne faut pas avoir la superstition de la politique et de l'Empire. L'important n'est pas là, il est surnaturel. Saint Augustin n'identifie donc pas l'Empire et la religion, comme l'avait fait un de ses prédécesseurs qui avait écrit « L'État n'est pas dans l'Église, mais c'est l'Église qui est dans l'État, dans l'Empire romain, car là seulement sont les saintes prêtrises, la pudeur des vierges consacrées, chose qui n'existe pas chez les barbares, ou qui ne seraient pas en sécurité si elles existaient. » Certes, pour Augustin aussi, la paix terrestre est une bonne chose, et une cité terrestre est nécessaire pour cela, vu que les hommes sont mauvais, depuis le péché originel. Mais le rôle rempli par la cité romaine pourrait certainement être assumé par n'importe quel autre État, puisqu'Augustin parle toujours d'une cité terrestre en général, sans jamais la désigner nommément. Mais Augustin n'est pas pour autant enclin à exalter les barbares, comme le fera après lui un bizarre personnage, l'ascète Salvien, qui, dans un gros livre, prendra le parti de faire l'éloge des barbares contre la société romaine. Selon Salvien, les barbares ont leurs défauts. Ils sont cruels, et puis ce sont des hérétiques, des ariens. Mais ces défauts des barbares sont dus à leur arriération, à leur ignorance, et ne sont que des accidents inessentiels, superficiels, qui ne viennent pas d'un vice radical. Tandis que chez les Romains règne essentiellement, profondément, la cupidité des riches, des puissants et la concupiscence de tous, et ça c'est un défaut essentiel, ce n'est pas un accident momentané. Et cette concupiscence de tous est révélée par la passion générale pour les courses de chars, qui sont le symptôme rédhibitoire. Ces vices ne sont pas des accidents, ils disqualifient radicalement la société impériale que Salvien diabolise, comme on dit, avec un néologisme bienvenu. Cette position pro-barbare de Salvien a été longtemps une énigme historique. Après 1945, on traitait en chaire Salvien de collaborateur. De nos jours, on le qualifierait plutôt d'ennemi de la société de consommation, et cette fois l'analogie serait moins lointaine. À son époque, l'ascétisme, l'abstinence ou le monachisme étaient une figure du romantisme politique ou éthique. Lorsqu'on était trop intransigeant pour se satisfaire d'une société pécheresse, injuste ou simplement médiocre, il était grisant d'aller au rebours de la fausse vie à laquelle on semblait destiné, celle d'un notable chrétien. La vérité étant absente de la société romaine qu'on avait rejetée et maudite, on en concluait qu'il y avait moins de fausseté chez ces barbares qui encerclaient l'empire du péché. Ce que je viens de vous dire, ce sont quelques lettres, quelques lignes extraites du romancier Olivier Rollin commentant son attitude en 1968 et que je reproduis avec son autorisation. Cet amour pour l'ennemi, de tendre l'autre joue, et cette hostilité contre l'ordre du monde font que l'agressé excuse les péchés de son agresseur sur ses propres péchés. C'est ce que Max Weber appelait l'amour cosmique. Saint Augustin, lui, était fort différent. Il n'était ni bénisseur ni impériateur. Il avait pris son parti du petit nombre des élus et il était profondément pénétré de l'idée de médiocrité humaine. Et sa tâche de pasteur à Épône était de lutter contre cela, contre des gens qui n'étaient pas des intellos. Merci de votre attention.